Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Avant nous, il y avait quelqu'un, tome 1, de Nikita Levy, est un ouvrage en français consacré aux origines humaines. Les informations éditoriales accessibles le présentent comme un voyage de redécouverte allant du départ des sapiens hors d'Afrique vers les premières étapes de l'histoire des sociétés humaines. Le livre est illustré par Carlos Alberto Biseglia, ce qui suggère une médiation visuelle destinée à accompagner la progression chronologique et à rendre des périodes très reculées plus abordables. Faute de résumés détaillés, de tables des matières ou d'extraits vérifiables, il convient toutefois de ne pas lui attribuer des thèses précises, des personnages historiques ou un découpage chronologique qui ne serait pas documenté. Son objet identifiable est plutôt de proposer une autre façon de revisiter l'histoire humaine, partir de la préhistoire et de la mobilité des groupes sapiens pour interroger ce qui précède le monde contemporain. Ce premier tome semble donc relever de la vulgarisation historique et préhistorique, avec une ambition de synthèse et de mise en perspective plutôt que d'un récit de fiction. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la sortie d'Afrique des sapiens comme point de départ du parcours. Le point de départ explicitement associé au livre est l'époque où les sapiens quittent l'Afrique. Ce choix est important car il place l'origine de l'histoire humaine moderne dans une dynamique de déplacement plutôt que dans une vision immobile des peuples et des territoires. La sortie d'Afrique ne désigne pas une expédition unique menée par un groupe homogène dans l'approche scientifique courante. Elle renvoie à des migrations et à des implantations progressives, étalées sur de très longues périodes. Un ouvrage qui prend ce mouvement comme fil conducteur peut ainsi aider à comprendre que l'occupation des continents est le résultat de trajectoires, d'adaptation et de rencontres successives. Cette perspective relativise les représentations simplistes selon lesquelles les populations humaines auraient toujours été séparées, fixes ou naturellement assignées à un espace donné. Elle rappelle aussi que les informations sur les temps préhistoriques proviennent de sources indirectes, vestiges archéologiques, fossiles, traces d'outils et, pour certaines questions, données génétiques. La valeur intellectuelle d'un tel point de départ tient donc à son pouvoir de contextualisation. Il ramène les lecteurs à une échelle de temps où les catégories politiques et culturelles actuelles ne peuvent pas être projetées telles quelles. Le thème permet d'aborder l'histoire humaine comme une histoire de circulation, sans effacer la diversité des expériences locales qui se constituent au fil des installations. Deuxièmement, revisiter l'histoire humaine avant les repères familiers de l'Antiquité. Le titre « Avant nous, il y avait quelqu'un » oriente la lecture vers une idée simple mais féconde, les sociétés contemporaines sont précédées par une profondeur humaine considérable. L'intérêt n'est pas seulement de remonter dans le temps. Il est de déplacer le regard au-delà des périodes habituellement les plus visibles dans l'enseignement et dans les récits culturels, tels que l'Antiquité classique ou l'histoire nationale, en partant des origines et des déplacements des sapiens. Le livre semble inviter à considérer les populations préhistoriques comme des acteurs de l'histoire humaine, et non comme un décor rudimentaire précédant la vraie civilisation. Cette démarche exige une prudence particulière. Les traces matérielles permettent de reconstituer des pratiques, des environnements ou des techniques. Mais elles ne donnent pas accès, avec la même précision, aux langues, aux croyances et aux intentions individuelles. Une vulgarisation responsable doit donc distinguer les éléments solidement établis des hypothèses proposées par les chercheurs. Le bénéfice d'une telle relecture réside dans l'acquisition d'une chronologie plus ample. L'histoire ne commence pas avec l'écriture, même si celle-ci transforme profondément la nature des sources disponibles. Le lecteur est ainsi encouragé à penser la continuité entre les groupes anciens et les humains actuels, tout en reconnaissant les différences radicales de conditions de vie, de milieu et d'organisation sociale. Troisièmement, les migrations anciennes comme cadre pour penser les peuplements, le déplacement des sapiens hors d'Afrique ouvre nécessairement la question des peuplements. Ce thème ne doit pas être réduit à une carte où des flèches relieraient mécaniquement un point de départ à des destinations finales. Les migrations humaines anciennes impliquent des rythmes variés, des arrêts, des bifurcations, des retours éventuels et des adaptations à des milieux très différents. Déserts, littoraux, montagnes, steppes ou zones forestières n'offrent ni les mêmes ressources ni les mêmes contraintes. Leur traversée ou leur occupation suppose des savoir-faire et des formes de coopération. En mettant l'accent sur cette longue mobilité, le livre peut contribuer à faire comprendre que le peuplement du monde est un processus historique, non une donnée naturelle figée. Cette approche est également utile pour éviter deux excès, imaginer une humanité ancienne uniforme, ou au contraire isoler les groupes comme s'ils n'avaient jamais entretenu de relations. Les contacts entre populations, les transmissions techniques et les transformations démographiques appartiennent à la logique générale des déplacements. même si leurs modalités précises varient selon les lieux et les époques. Pour un lecteur non spécialiste, le principal enjeu est méthodologique, une origine commune ne signifie pas une histoire identique. La diversité humaine se forme dans le temps, au sein de parcours collectifs multiples. C'est ce rapport entre unité de l'espèce, dispersion géographique et différenciation des sociétés qui donne au sujet sa portée historique. Quatrièmement, l'illustration comme outil de médiation pour les temps préhistoriques, la présence de Carlos Alberto Bisseglia parmi les crédits du volume Signal, une dimension illustrée. Dans un livre consacré à des périodes aussi éloignées, l'image peut remplir une fonction particulièrement utile, rendre perceptibles des échelles de temps, des territoires, des objets ou des scènes de vie dont le lecteur ne dispose pas d'expérience directe. Cartes, silhouettes. Reconstitutions ou représentations d'artefacts peuvent clarifier une explication, à condition de ne pas confondre une visualisation pédagogique avec une preuve archéologique. Cette distinction est essentielle pour les sujets préhistoriques. Une image de campement, de vêtements ou de déplacements reconstruit souvent un état des connaissances. Elle comporte nécessairement une part d'interprétation lorsque les vestiges sont incomplets. La force d'un ouvrage illustré réside alors moins dans la certitude apparente des images que dans leur capacité à soutenir la compréhension située un itinéraire. Comparer des environnements, observer la matérialité d'un outil ou imaginer des contraintes quotidiennes. L'illustration peut également faciliter l'accès des lecteurs débutants à une matière dense, sans réduire celle-ci à un simple divertissement visuel. Dans le cas de ce premier tome, elle paraît cohérente avec l'ambition annoncée de redécouvrir les origines humaines. Elle aide à franchir la distance entre des données souvent fragmentaires et une lecture continue, tout en appelant idéalement à garder un regard critique sur les reconstitutions proposées. En dernier lieu, un premier tome qui privilégie une entrée chronologique dans l'aventure humaine. La mention tome 1 indique que l'ouvrage s'inscrit dans un ensemble et qu'il constitue une porte d'entrée plutôt qu'un panorama nécessairement clos. Les informations disponibles associent ce volume au parcours allant de la sortie d'Afrique des Sapiens aux premières phases de l'histoire humaine évoquées dans sa présentation. Une construction chronologique de ce type possède un avantage pédagogique net, elle donne des repères avant d'aborder les périodes, les régions ou les problèmes plus spécialisés. Elle permet de relier des phénomènes qui sont souvent étudiés séparément, par exemple l'évolution des peuplements, les changements de milieu et l'émergence progressive de formes sociales plus complexes. Le format sériel peut aussi éviter de condenser abusivement plusieurs millénaires en quelques pages. Cependant, l'utilité d'un premier volume dépend de la manière dont il articule récit général et limite des connaissances. Les longues durées préhistoriques ne se prêtent pas toujours à des frontières nettes ni à des causalités simples. Il est donc préférable de les lire comme des cadres d'interprétation évolutifs, nourris par des découvertes et des débats scientifiques. Pour le lecteur, ce tome peut servir de base de vocabulaire et de chronologie, puis inciter à poursuivre vers des ouvrages plus spécialisés en archéologie, paléoanthropologie ou histoire des premières sociétés. Sa spécificité tient à l'effort de faire commencer l'enquête historique avant les sources écrites et avant les repères culturels les plus familiers. En conclusion, Avant nous, il y avait quelqu'un, tome 1, s'adresse en priorité aux lecteurs francophones qui souhaitent aborder les origines humaines sans commencer par un traité universitaire. Spécialisé, il peut convenir à des adolescents lecteurs, à des adultes curieux de préhistoire et aux personnes cherchant un cadre chronologique pour situer la dispersion des sapiens et les premiers peuplements. Son intérêt pratique est de fournir, selon sa présentation éditoriale, une porte d'entrée narrative et illustrée vers des temps pour lesquels les repères habituels font souvent défaut. Sur le plan intellectuel, le livre invite à élargir l'idée même d'histoire, les humains qui ont précédé les sociétés documentées par l'écriture ne sont pas une simple préface, mais une part décisive de notre passé commun. Il se distingue potentiellement des manuels strictement scolaires ou des essais très techniques par son angle de voyage à travers les origines et par l'intervention d'un illustrateur. Cette combinaison peut rendre plus accessible une matière fondée sur des traces fragmentaires, des reconstitutions et des chronologies de très longue durée. Il ne faut toutefois pas le choisir pour y chercher d'emblée une monographie scientifique exhaustive. Les informations publiques disponibles ne permettent pas d'établir le détail de son appareil documentaire, de ses sources ou de ses positions sur les débats de recherche. Sa meilleure utilisation est donc celle d'une introduction, lire le volume pour acquérir une vision d'ensemble, puis confronter ses thèmes à des ressources archéologiques et scientifiques plus spécialisées. Le tome semble surtout valoriser un changement d'échelle salutaire, en rappelant que l'histoire humaine commence bien avant les civilisations les plus connues. Si vous souhaitez soutenir Nikita Lévy, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partager vos réflexions. À bientôt.